الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dieu dans le Saint-Coran nous relate l'histoire d'un prophète et pas n'importe lequel. Et d'ailleurs, c'est la seule histoire du Coran qui est contenu dans une seule sourate. Les histoires des autres prophètes sont éparpillées dans presque toutes les sourates du Coran, sauf une. Son histoire commence dès le début de la sourate et se termine avec la fin de la sourate, et vous avez toute l'histoire dans une seule sourate. Alors que, par exemple, la vie du prophète Moussa alayhi salam est parsemée dans plusieurs sourates, à chaque fois pour tirer des leçons. Ce prophète, c'est le prophète Joseph, c'est le prophète Youssouf. Youssouf, le fils de Yaakoub, le fils de Jacob, fils de Ishaq, Isaac, fils de Ibrahim, Abraham, alayhim, as-salatu wassalam. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, l'a appris, El-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim. Le généreux, fils du généreux, fils du généreux, fils de généreux. Regardez le fil conducteur de cette généalogie. Tous des généreux, fils de généreux. Quelle est donc la générosité du prophète Youssouf? En quoi Youssouf alayhi salam a-t-il été un prophète généreux? Vous connaissez son histoire, je la résume en 2 secondes. Ses frères étaient jaloux de lui, tellement il était beau, tellement il était intelligent, tellement il était aimé par tous les gens. Malheureusement, au lieu de faire des efforts comme lui pour être comme lui afin d'être aimé, ils l'ont jalousé, ils ont décidé de lui faire du mal, ils l'ont pris, ils se sont débarrassés de lui en le jetant dans un puits. Une caravane passe par là, le récupère, l'emmène en Égypte pour le vendre comme une vulgaire marchandise à bas prix. Et qui l'achète? Il est acheté par celui qui dirige l'Égypte, le premier ministre de l'Égypte, El-Aziz. À l'époque, il y avait un roi qui dirigeait l'Égypte, qui faisait partie de la dynastie des Hyksos, un ministre. Et ce ministre décide de l'adopter, d'en faire son fils adoptif. Il a une femme qui malheureusement va trahir son mari en tombant amoureuse de ce jeune homme qui est très beau, très intelligent. Youssouf va faire le choix de quoi? Le choix de croupir en prison au lieu de trahir le ministre, le premier ministre d'Égypte qui l'a accueilli, qui l'a adopté, qui en fait un fils. Il préfère aller en prison au lieu de succomber à la tentation. Il reste en prison quelques années. Et voilà que le roi d'Égypte fait un rêve qu'il sent prémonitoire. Il demande l'interprétation à Madame Soleil, incapable de l'interpréter comme il se doit. Il demande l'aide de Youssouf, et Youssouf avait ce don d'interpréter les rêves. Et Youssouf va lui dire que ton rêve, qui consistait au fait que 7 vaches grasses vont se faire manger par 7 vaches maigres, Youssouf alayhi salam lui dit que cela signifie qu'il va y avoir 7 années d'abondance où la terre va être généreuse, et ces 7 années seront suivies de 7 années de sécheresse, de misère. Alors il faut dès à présent prendre les devants. Et le roi d'Égypte va quoi? Va dire à Youssouf qu'il est le bienvenu pour gérer cette crise à venir. Et Youssouf va devenir le ministre des Finances de l'Égypte. Et grâce à Youssouf et à son intelligence et à sa capacité de voir loin, et surtout à sa générosité pour être au service de qui? Au service de ceux qui l'ont mis en prison la veille, n'est-ce pas? Au service de ceux qui ne sont pas de sa famille ni de sa tribu. Youssouf est un enfant d'Israël, est un juif qui vient de Palestine. Les Égyptiens sont des Égyptiens qui ont leur religion, qui ont leur coutume, qui n'ont rien à voir avec les enfants d'Israël. Walakin, il a été élevé parmi eux. C'est devenu désormais un citoyen à part entière. Et par la grâce de Dieu, mais aussi par ses talents, Youssouf va devenir le ministre des Finances après avoir été au bas de l'échelle en prison, accusé d'adultère, chose qu'il n'a jamais fait. Mais tellement il est pur, tellement il est bon, tellement il est sincère, mais tellement il est altruiste, il pense aux autres, il veut faire du bien aux autres. Il veut faire du bien à qui, bon sang? Il veut faire du bien à des gens qui ne l'ont pas souvent aidé. Au contraire, vous vous rendez compte? Il a été accusé. Zuleïkha l'accuse. Son mari sait qu'il est innocent. Mais pour sauver sa peau et son honneur, il le met quand même en prison. Et malgré cela, Youssouf alayhi salam veut le bien de l'Égypte. Il veut le bien des Égyptiens. qui ne sont pas musulmans comme lui, car il était le seul musulman à l'époque dans cette contrée du monde. Et là, Youssouf va calculer. Il va dire, cette année d'abondance, il faut que l'on thésaurise, il faut que l'on mette de côté, il faut que l'on fasse des réserves. Et il va développer une stratégie économique. Les 7 années de disette et de sécheresse arrivent. Et grâce à sa politique qu'il a développée, il a sauvé non pas l'Égypte de la faim, mais il a sauvé tout le Moyen-Orient. Vous entendez ? La Palestine, la Syrie, l'Irak, le Soudan. Toute cette région est tombée dans quoi ? Dans une sécheresse sans précédent. Et les gens vont venir de toutes les contrées. Pourquoi ? Pour s'approvisionner en Égypte, parce que l'Égypte était le grenier à blé. Grâce à quoi ? Grâce à un fleuve béni qui s'appelle le Nil. La culture, l'agriculture là-bas était abondante. Très bien. Parmi ceux qui viennent s'approvisionner en Égypte, les enfants d'Israël, les juifs de Palestine. Et c'est là où Youssouf va rencontrer ses frères, son père et sa mère. Et l'histoire va bien se terminer. Avec quoi ? Avec la réconciliation. Voilà l'histoire résumée de Youssouf. Qu'est-ce qui nous intéresse dans cette histoire aujourd'hui ? C'est que Youssouf, alayhi salam, est devenu citoyen malgré lui. Il n'a pas choisi, vous êtes bien d'accord ? Ce sont des gens qui l'ont pris du puits et qui sont allés le vendre en Égypte. Comme nous. Nos parents sont venus en France. Ils se sont installés pour des raisons économiques. Nous sommes nés alors que leur plan d'action, à l'origine, c'était de venir travailler 1 an, 2 ans, 3 ans, se faire un peu de fric et de retourner au bled. C'était ça, leur niya, leur intention. À laquelle ils ont fait un calcul et Dieu a fait un autre calcul. Vous entendez ? Eux, ils pensaient les choses d'une manière et Dieu voyait les choses autrement. Qu'est-ce que Dieu voulait ? Il voulait que nos parents viennent ici parce qu'il y avait de la sécheresse au bled, parce qu'en France, ils avaient besoin de main-d'œuvre. Donc, les politiques de l'époque et les industriels avaient besoin d'une main-d'œuvre moins chère, mais surtout une main-d'œuvre qui n'avait pas une maturité politique et syndicale. Parce que à l'époque, en France, après la Deuxième Guerre mondiale, dans notre paysage ouvrier, il y avait un syndicat qui s'appelle le syndicat communiste CGT qui faisait pression sur les patrons pour avoir des droits. Et ces ouvriers ne se laissaient pas faire. Ils demandaient des augmentations de salaire, des congés payés, etc. Donc il valait mieux ramener une main-d'œuvre gratuite, du moins peu chère, mais surtout docile. Vous entendez, docile. Nos parents ne savaient pas parler français, ils ne le comprenaient pas et surtout ils n'avaient pas du tout l'éducation de la revendication. Hein ? Que Dieu me pardonne. C'était, entre guillemets, pour les patrons de l'époque, des esclaves de l'eau bénite, tout simplement. C'est pour ça qu'ils les ont ramenés. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en 1973-14, il y a la crise du pétrole. Vous entendez ? Et normalement, quand il y a crise, au lieu de ramener des étrangers, on ferme les robinets pour qu'ils n'arrivent pas. Et c'est en 1974 qu'une loi va être votée pour le regroupement familial. C'est ce que ça veut dire, le groupement familial. Ça veut dire toi, là, mon père. Pour que tu n'aies plus l'intention de retourner au bled, je te donne l'autorisation de ramener ta femme et tes enfants. Comme ça, je suis sûr que tu vas rester ici parce que j'ai besoin de toi. Et quand je n'aurai plus besoin de toi parce que tu seras trop vieux, tu seras fatigué, j'ai besoin de tes gosses. Oui, c'est un truc de ouf, vous vous rendez compte ? La crise, et quoi ? Vite, le regroupement familial. Il faut pas qu'ils se barrent, il faut qu'ils restent. Très bien. Tout ça, ce sont des plans faits par les êtres humains. Avec bonne ou mauvaise intention, ça ne me regarde pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat final aujourd'hui. C'est quoi le résultat final aujourd'hui ? C'est que nous sommes tous des Joseph, des Youssouf. Nous sommes ici, là, en France, et nous sommes Français. D'accord ? Et même si Zuleïkha essaie de nous piéger pour commettre la fornication, même si son mari nous a mis en prison, même si on a subi mille et une injustices, la ségrégation, le racisme à l'emploi, le racisme dans les boîtes de nuit, et tout ce que vous voulez, tout ça là, ce que Youssouf a subi. Youssouf n'était pas au paradis en Égypte, vous entendez ? Et vous savez comment il a fini ? Il a subi la hogra, oui ou non ? Très bien, malgré tout cela, quand Youssouf a eu l'occasion de sortir de l'anonymat, de l'ombre, de la prison, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est vengé contre son pays, l'Égypte, qui lui a fait du mal ? Est-ce qu'il avait pour... Est-ce que quand le roi lui a dit « Explique-moi le rêve », il lui a fait une... Hein, à l'envers. Il lui a dit « Non, 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 ton rêve, il ne veut rien dire. Regardez comment Youssouf veut du bien. À qui ? Aux autres, à son peuple adoptif, c'est ça ? À l'Égypte ? Allez, on va parler comme on a l'habitude de parler. Comment il veut du bien aux non-musulmans ? Il est le seul musulman. Il veut du bien aux autres qui ne sont pas musulmans et parmi eux, ceux qui lui ont fait du mal. Il est au-dessus des sentiments, Youssouf. Il a un objectif dans sa vie. Vous savez, c'est quoi ? C'est sauver le maximum de personnes. Et non pas sauver uniquement leurs âmes, mais sauver leur corps. Mais oui, sauver leur corps. Et donner à manger à celui qui a faim, à boire à celui qui a soif. C'est ce que fait Youssouf. Alors, vous croyez que Youssouf, quand quelqu'un venait lui demander de la nourriture, il lui disait « Dis la shahada, je te donne à bouffer ?» Vous croyez que Youssouf faisait du chantage religieux pour que les gens se convertissent à l'islam ? Non, Youssouf donnait sans compter, par générosité, par amour et par altruisme. À qui ? Aux autres. Voilà que Youssouf n'aurait jamais pu réaliser ce projet humanitaire. Vous entendez ? Jamais Youssouf n'aurait pu réaliser ce projet humanitaire si Youssouf avait de la haine, de la rancune, un esprit de vengeance, s'il était raciste, vous entendez, xénophobe, s'il restait enfermé dans le passé et il mâchait et remâchait en permanence l'histoire douloureuse de son peuple, si Youssouf n'avait pas eu l'intelligence d'accepter la proposition qui lui a été faite d'être le ministre des Finances. Il a réalisé son projet parce qu'il avait du pouvoir, parce qu'il était placé là où il fallait, c'est-à-dire dans les hautes sphères de l'État égyptien non musulman de l'époque. Et à partir d'en haut, il a répandu le bien vers le bas. Voilà une des leçons fondamentales que nous devons tirer de l'histoire de Youssouf alayhi salam. Vous rêvez. Et vous allez continuer à rêver, mais vos rêves n'auront aucun sens si vous ne tenez pas compte de la réalité. La réalité, c'est quoi ? C'est que nous sommes dans un pays hyper organisé, la France. C'est pas arrêter de réveiller un pays où il y a de l'anarchie. Tout est à sa place. Tout est calculé au centimètre près. Il n'y a pas de place dans notre démocratie au hasard. Vous entendez ? Ça n'existe pas. Le hasard, le boxon, le foutoir, c'est chez les Arabes. Vous entendez ? En Occident, c'est de la science. On dirige de cette manière. C'est une science. Ce sont des gens qui ont fait des études. Ce sont des gens qui sont experts dans tous les domaines. C'est comme ça que ça fonctionne. Et si on n'a pas compris cela, nous allons toujours rester en bas de l'échelle. Et celui qui est en bas de l'échelle ne peut pas être utile. Il ne peut pas faire avancer les choses. Si tu n'as pas les moyens, tu ne peux rien faire. Et il faut avoir des moyens intellectuels, des moyens économiques, des moyens politiques, des moyens médiatiques pour être utile, pour être efficace. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre ces gens qui passent leur temps à dissuader les musulmans de ne pas s'intégrer dans le paysage politique, ne serait-ce qu'en choisissant leurs responsables. Sous prétexte que c'est anti-islamique de voter, parce que d'après eux, le raisonnement, il est le suivant. Tu vas voter pour quelqu'un qui n'est pas musulman, donc automatiquement, en tant que député, il va faire des propositions de loi qui ne sont pas musulmanes, donc qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas te soumettre à nouveau à des lois non musulmanes. Raisonnement stupide, absurde, qui n'a aucun sens, pour la simple et unique raison. Un. Une loi est musulmane tant qu'elle est juste. Vous entendez ? Une loi est musulmane parce qu'elle est juste. Pas parce qu'elle est en arabe, ou elle est en shilha, ou là en ourdou. Ce qui compte, c'est le fond, c'est l'esprit de la loi. Elle est juste, elle est musulmane. Qu'elle ait été pondue par un musulman ou un non-musulman, ce qui compte, c'est le résultat. Et depuis quand avons-nous le monopole de la justice ? Le monopole du bien. C'est quelque chose qui est propre à tous les êtres humains. Donc une loi est musulmane parce qu'elle est juste. Regardez, il y a deux ans, ils ont voté une loi qui est le congé parental, c'est ça ? Non, congé maternité pour le père. Hein, t'as un gosse, c'est plus ta femme qui a 15 jours de congé, mais c'est toi aussi. Non ? Qu'est-ce que vous pensez de cette loi ? Elle est juste ou elle n'est pas juste ? Pardon, elle est musulmane ou elle n'est pas musulmane ? Je crois que même si elle était mécréante et elle parlait, tous les musulmans l'acceptent. Ah, ils aiment bien. Ils sont comme ça, les musulmans. Vous savez comment ils sont ? C'est des gratteurs et des profiteurs. Ouais ? Tout ce qu'ils savent faire, c'est mettre les pieds sur la table et cracher dans la soupe. Galek, non, je vais voter pour quelqu'un qui n'est pas musulman, il va faire des lois non musulmanes. Ce quelqu'un-là dont tu parles, quand il prend une loi qui t'arrange, pourquoi tu la prends ? Pourquoi ? Pourquoi c'est deux poids, deux mesures ? Normalement, tout ce qui vient de lui, tu ne devrais pas l'accepter puisqu'il n'est pas musulman. Regardez les contradictions, tu ne sais plus comment parler, tu ne sais plus quoi dire. C'est de la bassesse intellectuelle. Vous entendez ? Youssouf alayhi salam a pris le pouvoir, on le lui a donné, il l'a pris. Il n'a pas dit, oh non, moi je ne vais pas participer à un État qui n'est pas musulman, je ne vais pas participer à un Parlement qui n'est pas musulman, je vais être soumis à des lois musulmanes ou pas musulmanes. Youssouf, il a un objectif, il faut sauver des millions d'êtres humains. Comment les sauver ? C'est pas en étant à la marge, c'est pas en ayant la main basse, mais c'est en étant en haut pour faire avancer les choses. Et quand il a eu le pouvoir, il a sauvé des millions d'êtres humains, musulmans ou pas musulmans, ça l'intéresse pas. Je crois qu'on a un gros problème de positionnement philosophique et intellectuel vis-à-vis de l'autre. Ça, c'est le premier point. Une loi est musulmane quand elle est juste, quand elle est bonne, quand elle est utile, tant qu'elle n'est pas en contradiction avec les fondements de l'islam. Deuxièmement, pourquoi être un extrémiste dans ses prises de position et ses jugements ? Pourquoi toujours voir le mal ? Pourquoi on n'est pas juste ? On pèse le pour et le contre. Pourquoi est-ce qu'on ne sort pas la balance qui est normalement le propre de l'être humain, la capacité de distinguer le bien du mal, le vrai du faux, l'inconvénient de l'avantage ? Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas comme ça ? Pourquoi est-ce qu'on est catégorique ? Ah, le mec, il n'est pas musulman, donc ne peut émaner de lui que le mal. C'est quoi cet extrémisme ? On reproche à certains d'être racistes, de dire que tous les Arabes sont des voleurs, tous les musulmans sont des terroristes. Et nous faisons la même faute et la même erreur. En reprochant nos concitoyens non musulmans d'être incapables de dire et de faire le bien. Troisièmement, si ce que tu prétends est vrai, sache que tu votes ou que tu ne votes pas, il y aura toujours des responsables dans notre pays. Et ils vont faire des lois qui te plaisent ou qui te déplaisent. Normalement, tu devrais aller jusqu'au bout de ta logique, mon frère, qui est de te soustraire à ces lois qui ne sont pas musulmanes, qui sont anti-musulmanes. Tu sais ce que ça veut dire, se soustraire ? Tu devrais déménager, tu devrais partir. Pourquoi tu me refuses de voter pour envoyer au Parlement des gens que je pense qui sont justes et qui vont faire la promotion de la justice et combattre l'injustice ? Et toi, tu acceptes de te soumettre volontairement à un système que tu prétends être injuste. Normalement, tu devrais être courageux, tu devrais être honnête intellectuellement et tu devrais aller jusqu'au bout de tes idées qui t'imposent de te soustraire, de ne pas accepter, d'être dominé par, comme il dit, des kofars, par des lois de kofars. Haya, bismillah, il y a des avions, des charters, ils sont pas chers. 30 euros, tu peux aller au bled aujourd'hui. C'est pas gratuit. Et si c'est trop cher, 30 euros, il y a des cars. Ils partent de Valenciennes, ils partent de partout. Haya, bismillah, va jusqu'au bout. Va dans les pays musulmans où il y a la loi musulmane. Va dans les pays musulmans où tu as député musulman et tu vas subir la loi musulmane. Pourquoi ? Être un facteur perturbateur dans notre communauté alors que tout le monde sait ici que nos hommes politiques ne te respectent que si et seulement si tu existes politiquement. Tu existes politiquement, tu votes donc tu es. Tu ne votes pas, tu n'es pas. La preuve, elle est toute simple. Tous les lobbies font pression, tous les lobbies font des démarches. Là, en ce moment, c'est la campagne. Les hommes politiques sont obligés d'aller eux-mêmes vers les lobbies. Le lobby des agriculteurs, la FNSEA, etc. Le lobby des viticulteurs, le lobby de arméniens, hein, vous vous souvenez avec le génocide arménien, le lobby non, je vais pas le dire, c'est dangereux, le lobby homosexuel, c'est ça. Yanni, tout le monde s'organise pour faire pression sur les hommes politiques pour avoir quoi, gain de cause. Viens, je vote pour toi, tu me donnes ça, je vote pour toi. Il n'y a que nos musulmans qui sont nombreux, qui sont capables de faire pression pour avoir des droits, qui de disent « Ah non, c'est haram de voter ». Bah tu sais, si c'est haram de voter, on n'aura pas de Youssouf au Parlement. Eh oui, il faut envoyer des Joseph au Parlement. Des Youssouf et des Joseph, vous entendez ? Allez, des Youssouf, des musulmans et des non-musulmans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la religion du mec, ni sa couleur, ni son sexe. Ce qui m'intéresse, c'est sa capacité d'être juste et de répandre la justice. Donc, il faut arrêter, vous entendez, de tourner autour du rang et de perdre notre temps. Vous avez vu le traitement médiatique qu'on a subi, là ? Et peut-être qu'il va encore recommencer ou il va revenir de plus belle. Il n'y a qu'une manière de l'arrêter. C'est de frapper sur la table intelligemment. Laquelle de table ? La table de nos responsables politiques. Parce que ce sont eux qui font la pluie et le beau temps. Allah l'adim, ils sont capables demain de voter une loi contre l'islamophobie, comme ils ont voté une loi contre l'homophobie. Et pourquoi nous, on est insultés en tant que musulmans, matin, midi et soir. On nous a même insulté notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et on est incapable de faire pression sur nos hommes politiques pour voter une loi contre le blasphème, contre l'islamophobie. Il y en a en public qui le disent. Les musulmans, il faut les expulser de France. Il faut fermer les mosquées. Ils le disent ou ils ne le disent pas ? Ils le disent et ils n'ont rien. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien ? Parce qu'on ne fait rien. Tout simplement. Il ne faut pas leur demander de changer. C'est leur croyance. Et c'est leur droit de nous insulter, de nous critiquer. Et s'ils avaient les moyens, peut-être qu'ils nous élimineraient. Parce qu'ils pensent que nous sommes dangereux. Chose qui est fausse. Voilà que le problème n'est pas de se poser la question, qu'est-ce qu'ils pensent, pourquoi ils disent ça, pourquoi ils... C'est pas ça le problème, c'est tu fais quoi, toi, pour arrêter cette catastrophe dans notre pays. Vous savez que c'est une catastrophe de monter les uns contre les autres. Vous savez ce qui va se passer, demain il va y avoir une guerre civile. Il n'y a pas une mosquée qui a été brûlée, là, cette semaine. Vous n'êtes pas au courant, ça n'a pas fait la une des journaux. Hein, c'est pas passé aux 20h. Hein. Non, pourquoi? Parce que c'est pas grave, c'est une mosquée, en Corse. Et j'en passe les actes d'islamophobie au quotidien. Voilà qui c'est normal. Plus on nous frappe, plus on baisse, on courbe les chines. Plus on prend la ça, plus on pleure. C'est pas ça qu'il faut faire. Vous savez ce qu'il faut faire ? Il faut faire comme les autres. Il faut faire comme les homosexuels, comme les viticulteurs. Il faut faire comme tous les groupes qui existent en France qui se battent pour leur intérêt. Et non pas dire, ça sert à rien de voter, c'est tous les mêmes, c'est tous des pourris. Ben, c'est exactement ce qu'ils veulent, que tu votes pas. Comme ça, le mec, il est sûr de retrouver sa place et de continuer à vomir sur toi. Vous allez dire, oui, mais je vais voter pour qui ? J'en ai rien à cirer pour qui tu dois voter. Ici, c'est pas une tribune politique pour dire voter pour un tel ou contre un tel. La mosquée, elle doit rester neutre. Voilà que la mosquée, vous savez ce qu'elle doit faire ? Elle doit inciter les citoyens musulmans et non musulmans à assumer leurs responsabilités dans leur société pour éviter que la société vire dans le rouge. La société française, normalement, c'est une société de fraternité, d'égalité, de justice. Et là, on sent qu'on est en train de perdre ces principes philosophiques humanitaires. On est en train de les perdre, tout doucement. Et il faut vite réagir, parce que nous serons les premiers à y perdre. Allah ybarak fikoum, devenez tous des Youssouf. Et si vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas capable, soutenez les Joseph. Vous entendez ? Et il y en a des Joseph. Ne croyez pas que c'est la fin du monde, que demain ça, la terre elle va exploser. C'est pas vrai. On va mourir et mourir et mourir avant que la fin du monde n'arrive. La fin du monde, vous savez, c'est quoi ? C'est de ne pas pouvoir être soi-même. Et je crains que tout doucement nous allons perdre notre liberté d'être nous-mêmes si nous n'agissons pas comme il faut en temps et en heure pour faire taire les mauvaises langues et donner les micros à ceux qui disent la vérité et la justice. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Certains pourraient dire, ouais, tout ce que tu dis, ça sert à rien. Et le musulman, subhanallah, il regarde toujours la moitié du verre qui est vide. Il regarde jamais le verre plein. Les musulmans, ils sont toujours dans le pessimisme. Ils regardent ce qui ne va pas et automatiquement, ça les décourage. Ben écoutez, je vais vous raconter une petite anecdote. Elle est toute fraîche. Elle date de 5 jours. La semaine dernière, samedi, je suis parti faire une conférence dans une ville. Je ne la cite pas, on ne sait jamais. Et quand j'arrive dans la ville, je trouve l'endroit où je dois faire la conférence. Magnifique. Un bâtiment, mashallah. Trop bien fait, trop beau, tout est fait à mesure. C'est pas écrit mosquée. Vous savez ce que c'est écrit? Centre culturel, Philippe Grenier. Et je rentre et j'apprécie. J'apprécie la beauté, l'architecture, la décoration. Puis après, je parle avec les responsables. Comment vous avez fait pour faire ça? Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, c'est pas nous, on n'a rien fait. Tu vois pas que c'est pas du travail d'arabe? C'est du travail... Tayeb, qui c'est qui a fait ça? Galek, ben c'est la mairie qui a fait ça. Je sais pas vrai. Oui, c'est la mairie qui a construit ce bâtiment. Et la mairie nous l'a donné. Et ça fait des années qu'on prie ici, qu'on fait tout ce qu'on veut. Oui, mais et après? Il dit, ben écoute, on a signé pour acheter. Je lui dis, à combien? Il m'a dit, oh non, ça, si tu le sais, tu vas tomber par terre. Le bâtiment a coûté pour la mairie des millions d'euros. Il a été signé à 800 000 euros. 800 000 euros. La cerise sur le gâteau, c'est pas qu'ils l'ont jeté à 800 000 euros. C'est quoi? C'est qu'il leur a donné 6 ans pour payer. 6 ans. Il leur a donné du temps, le maire. Et le frère, il m'a dit, il nous reste 150 000 euros à ramasser et on signe avant les 6 ans. Le bâtiment nous appartient déjà parce qu'on a signé. Et le clou du spectacle, vous êtes prêts? C'est qu'après, on va avoir des subventions parce qu'on est enceinte, on est un centre culturel. Tout simplement. Hein, l'argent, il est parti pour revenir. J'ai dit, attends, ce maire, il est musulman? Oh, pas du tout, il est athée. Allahumma jiblana des athées comme ça. Qu'Allah multiplie des athées comme ça. Qu'Allah donne la victoire à des athées comme ça. Qu'Allah mette au pouvoir des athées comme ça. Qu'Allah renforce des athées comme ça. Vrai ou faux? Regardez, ya ibad Allah, c'est ça le problème de certains musulmans. Ils sont pas au courant de la réalité qui est en France. Regardez. Et ça, c'est à Paris, vous entendez, dans la grande couronne. Tu peux pas acheter là-bas, ça coûte trop cher. Et tu me dis que je dois pas voter. Mais ce maire-là, c'est pas qu'on doit voter pour lui, c'est qu'on doit lui faire des doigts matin, midi et soir pour qu'il vive 400 ans. Est-ce que vous vous rendez compte de la générosité, de la bonté, de l'altruisme, de la justice? Et c'est normal ce qu'il a fait, parce que c'est fait pour tout le monde. Les églises ont des subventions, tout le monde. Il n'y a que nous qui, malheureusement, sommes toujours à la marge. Et tu me dis qu'il ne faut pas voter, et tu me dis qu'il ne faut pas soutenir, et tu me dis qu'il ne faut pas envoyer au Parlement. Très bien, il ne faut pas envoyer au Parlement. Ouvrez bien vos oreilles. Vous savez que le seul député musulman que nous avons eu de l'histoire de France, vous savez c'est qui? C'est un homme qui s'appelle Philippe Grenier. Oui, Philippe Grenier, de la ville de Pontarlier à la frontière avec la Suisse. Il s'est converti à l'islam. C'était un médecin. Et vous savez ce qu'il a fait quand il s'est converti? Il s'est présenté pour être député. Regardez, au 19e siècle, les musulmans, ils étaient plus intelligents que nous. Ah, on est au 21e siècle, non? Au 22e? Au 23e siècle? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend. Regardez, à l'époque, il se convertit à l'islam, tout de suite, il a compris que pour être utile à l'islam, il fallait qu'il soit, où ça? Au Parlement, à l'Assemblée nationale, et en 1896, Philippe Grenier, rahimahullah, radiyallahu anhu, il s'est présenté, et la presse l'appelait le député d'Allah, et il a gagné les élections. Pontarlier, vous savez, c'est quoi? C'est une région de paysans. Et ils ont voté pour lui. Pourquoi ils ont voté pour Philippe Pontarlier? Le islamiste, intégriste, fondamentaliste, terroriste, salafiste de surcroît. Et vous savez comment ils se baladaient dans la ville? Ils se baladaient avec Jlaba, Burnous, Rza, et une barbe n'ta ça. Vous tapez tout à l'heure Google, Philippe Grenier, vous allez voir sa photo. Comme ça, il se baladait. Et à l'Assemblée nationale, il s'asseyait sur son siège, habillé comme ça. Khlas, avec Olihal, c'est son ijtihad, il était bon pour l'époque. Aujourd'hui, si jamais tu deviens député, costume-cravate, c'est ce que je te conseille, et gilette au passage. Très bien. Philippe Grenier, pourquoi il est parti à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? Qu'est-ce qu'il est parti faire à l'Assemblée nationale, Philippe Grenier, radiallahu anhu? Il est mort en 1944. Il est parti faire quoi, ya ibadallah? Il est parti prendre le micro et dire aux députés français, ce qu'on fait en Algérie, c'est pas bien. Ce qu'on fait aux musulmans d'Algérie, c'est pas juste. Il est parti défendre la justice. Très bien. Regardez maintenant ce qui va se passer. Le grand émir Abdel Qadr, radiallahu anhu, qu'il connaît pas. L'émir Abdel Qadr, le mujahid. Il a fait une fatwa où il interdit aux musulmans d'acheter et de consommer le sucre. Squar. Haram, squar. Vous êtes choqués. C'est quoi ça? Du sucre haram? Le sucre blanc est haram? Vous savez pourquoi il a fait la fatwa, l'émir Abdel Qadr? Parce que nos usines de sucre à Marseille envoyaient des bateaux en Algérie. Les fabricants de sucre du sud de la France allaient en Algérie récupérer les os, les squelettes des morts dans les cimetières. Ils creusaient les tombes, ils exhumaient les corps et ramenaient des tonnes et des tonnes d'os d'humains, la dom ta al-bashar, la dom ta al-ajdoud ta'ana. Ils ramenaient des tonnes d'os dans les usines pour les écraser, pour faire une poudre blanche, pour le mélanger avec, pour la mélanger avec le sucre, pour qu'il devienne blanc. C'est pour ça que l'émir Abdel Qadr a fait une fatwa pour interdire de consommer le sucre blanc qui, en fait, est composé des ossements de cadavres musulmans. Walakin, la fatwa de l'émir Abdel Qadr. Vous croyez qu'elle a arrêté les charognards qui déterraient les corps et qui prenaient les os? Vous savez qu'est-ce qui a arrêté ça? Qu'est-ce qui a arrêté ce trafic d'os humains? Qu'est-ce qui a arrêté cette horreur humaine? La fatwa de l'émir Abdel Qadr? Non. Vous savez qui ça? C'est les députés à l'Assemblée nationale. Eh oui, à l'Assemblée nationale française à Paris, Philippe Grenier, radiallahu anhu, et des députés, Christophe et Joseph, qui ne sont pas musulmans, ont posé le problème à l'Assemblée nationale et il y a eu des discussions, un bras de fer avec les pour et les contre, parce que le lobby du sucre faisait tout pour qu'il continue. Mais il y avait des humanistes, des êtres humains qui ont une morale. Et vous savez qui c'est qui a gagné? Ceux qui étaient contre. Et le Parlement français a voté une loi pour interdire l'utilisation des ossements de musulmans pour faire le sucre. Et ça s'est arrêté à ce moment-là. Heureusement qu'il y avait à l'Assemblée nationale des députés. N'est-ce pas? Heureusement qu'il y avait Philippe Grenier, rahimahullah, Christophe et Joseph. Hein? Et Hana musulman, galolique, il ne faut pas voter. Il faut rester chez toi et pleurer sur ton sort. Vous savez ce qui va nous arriver? Ce qui est arrivé à Bouabdil. Bouabdil. Vous savez c'est qui ce mec? C'est Abu Abdillah As-Sarir, le dernier roi musulman d'Espagne, de Grenade. Quand il a remis les clés à Isabelle et Ferdinand, les rois catholiques, les Stislem, 1492, il s'est mis à pleurer quand il a vu Grenade s'évaporer, partir, disparaître. Et sa mère, Aïcha, l'a regardé et elle lui a dit « Pleure !» Excusez-moi les femmes, hein, c'est elle qui l'a dit. « Pleure comme une femme, un royaume que tu n'as pas su défendre comme un homme. Pleure comme une femme, un royaume que tu n'as pas su défendre comme un homme. » Et c'est ce qui va nous arriver. On est en train de pleurer parce qu'on perd nos droits, parce qu'on subit un traitement médiatique honteux au lieu d'agir comme des hommes avec intelligence, avec pragmatisme. Oh là là, Avec pragmatisme, ouais. Avec pragmatisme, dans le cadre de notre démocratie qui nous donne la liberté de nous défendre, vous savez que tout ce qu'on sait faire, c'est creuser notre tombe. Et croyez-moi, on n'a pas besoin d'une tempête pour tomber dans la tombe. Une petite brise, comme ça, et on disparaît, et on n'aura qu'à pleurer comme Abu Abdillah, et ça sera trop tard. Il y a un frère qui est décédé hier soir, qui était originaire d'ici, dont la famille est présente parmi nous. Il nous demande de faire des doigts pour lui. Allah ybarak fikoum, dans votre soujoud, vous prierez pour ce frère qui est décédé hier soir. Demain, inshallah, la conférence mensuelle, c'est notre ex-imam, le frère Nourdine, qui va l'animer. Il sera là demain, donc vous êtes tous les bienvenus. S'il y a des frères et des sœurs qui veulent participer à cette activité demain, en étant généreux, comme Youssouf, alayhi salam, en participant pour faire un repas. Hein, la mosquée, elle est ouverte. La mosquée, elle donne à manger au cœur et au corps. Votre participation est bien la venue, financièrement, ou je ne sais trop comment. Allahi barak fikoum. Soyez généreux, soyez bons avec cette communauté, avec votre religion. Allahumma aghfir lahu warhamhu. Allahumma afu anhu wa afihi. اللهم أكرم نزوله اللهم وسع مدخله اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ارزق لأهله الصبر والسلوان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين